C'est bon.
Tout le monde peut m'écouter, ça arrive bien là. Bon, bonsoir tout le monde. Au nom de toute l'équipe de CRA de la Pipe en Vol, je vous souhaite une excellente rentrée pour ce nouvel cycle de conférences 2018-2019. Un programme qui est déjà quasiment bouclé, toujours un peu en évolution, comme toutes les choses vivantes. Mais a priori, tout est déjà bouclé. Et puis, on est convaincu qu'on a trouvé une bonne mixture de divers thèmes qui va vous ravir.
C'est le signal.
Bon, c'est donc la rentrée après une très longue pause d'été. Pendant cette pause, vous avez peut-être voyagé, vous avez rencontré des nouvelles paix, vous avez fait des rencontres personnelles, ou vous avez vu d'autres cultures. Et puis pour la rentrée, on a pensé qu'on va continuer un peu ça. Donc on va voyager aussi ce soir. On ne va pas seulement travailler les neurones, mais ça aussi, parce que c'est la rentrée. Mais on va encore voyager grâce à notre conférencier, Koen Engelhard, qui est à côté de moi, qui va nous emmener en Afrique, en Mali. Et puis dans le pays d'Oban, en Mali, et spécialement dans un petit village qui s'appelle Ende. Pourquoi cet voyage? Parce que, bon, il va l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais lui, il a rencontré dans ce pays-là une richesse qui est autrement. Une richesse de vie qui est différente de notre mode de vie. Et tout ça, il va nous expliquer. Quelques mots sur Koen personnellement. Moi, je le connais depuis très longtemps et vous avez peut-être aussi déjà la possibilité de le rencontrer comme musicien à l'époque, parce qu'il a donné beaucoup de concerts ici dans la région. Parce qu'il est un excellent celliste aussi. Il n'est pas seulement artiste, mais il est aussi artisan. Il a fabriqué même ses propres instruments. Et il fabrique encore, je ne sais pas si tu fabriques encore des instruments, mais quand je l'ai rencontré récemment pour préparer la conférence, il était en train de fabriquer des arches. Des archers pour les instruments. Donc, et puis lui, il est seul au monde qui fait ça au bois d'acacia. Pourquoi? Peut-être tu peux l'expliquer après toi-même. Il va aussi certainement parler de l'association Malikanou, où il est pas président mais trésorier, tu as dit, où il travaille avec sa sœur dans cette association avec d'autres. Bon, il y a d'autres, à la fin de la conférence, on va encore parler sur le programme de nos conférences futures et sur la fête de 5 ans, parce que la Pipe en Vol existe maintenant depuis 5 ans. Et puis on est très heureux de vous inviter tout à l'heure pour cette fête, mais c'est Catherine qui va vous annoncer toutes les prochaines rencontres. Après. Bon, je laisse la parole à Koen, qui va, avant de nous emmener avec son film qu'il a réalisé soi-même, il va nous nous expliquer comment il est arrivé à ses expériences là-bas. Bon, merci Kuhn d'être venu et puis bonne soirée à tout le monde.
Merci Johannes et merci à tout le monde d'être venu ce soir. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler avec le micro, donc si vous entendez pas assez, vous me le dites. Il y a d'abord une petite introduction au film, après il y a le film qui dure une demi-heure, et après il y a un moment où on peut échanger, où vous pouvez poser vos questions et que je vais essayer de répondre. Mais d'abord, je vais parler un petit peu de comment je suis venu à faire ce film. Et même, je vais vous d'abord parler d'hier soir. Hier soir, j'ai entendu, comme peut-être certains d'entre vous, une conférence dans le cadre du PUPAL à Carlisle, où le sujet était les immigrants et les demandeurs d'asile. Toutes ces personnes qui vivent des situations très difficiles, douloureuses en Afrique, et qui risquent leur vie pour venir en France, parce qu'ils croient que la vie est meilleure ici. Et d'un certain point de vue, je crois aussi que la vie peut être meilleure ici. En tout cas, il y a plus de sécurité. Il y a beaucoup de choses que nous avons que les Africains n'ont pas. Mais ce soir, je vais vous raconter l'histoire à l'envers. Je vais vous montrer ce que j'ai rencontré en Afrique. C'est une vie qui est très heureuse. Et j'ai rencontré un peuple qui rayonne une joie de vivre qui est bien supérieure à notre expression, en tout cas, de la joie de vivre ici. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça, il faut le montrer ici, parce que ça met certainement quelques pendules à l'heure. Donc, comment je suis arrivé au pays d'Oron? Ma sœur Wendla, qui est présidente de l'association Malikanou, habite au Mali, à côté de Bamako, depuis des années. Et elle a des projets humanitaires là-bas pour apprendre les enfants qui ont raté l'école pour les enseigner, pour apprendre aux femmes qui ne savent pas lire et écrire, de lire et écrire. Il y a des ateliers de couture, il y a plein d'actions qu'elle mène à côté de Bamako. Et de notre côté du pays, dans le pays d'Oron, il y a des projets aussi depuis 2009 dans le village d'Endé, justement. Et donc la première fois que je suis allé à ND, c'était avec elle. Elle m'a introduit dans ce village. C'est un voyage d'une journée entre Bamako et une journée et demie même. Il y a une journée dans le bus pour aller à Morty et Sévaré. Et après, il y a une demi-journée en taxi-brousse ou en voiture pour aller le plus près qu'on peut dans le pays d'Ogon. Et après, si la voiture ne passe plus, ben il faut prendre une charrette avec des bœufs pour faire les derniers kilomètres jusqu'au village. Vous voyez ici sur la carte le pays, le Mali, avec Bamako. Vous voyez la grande partie qui est que du désert dans le nord, là où il y a Timbuktu et Gao, où il ne faut pas aller en ce moment. Et vous voyez dans le cercle Ndé au milieu du pays d'Ogon. Le pays d'Ogon est une région du Mali qui est un peu protégée. Protégée par l'influence des autres pays, notamment de notre pays, et protégée aussi... Bon, le Mali a disparu.
Non.
Ah, c'est revenu. C'est un pays qui est un peu protégé aussi par ça, ce que je disais, la difficulté d'accessibilité, parce qu'il n'y a pas de route qui passe vraiment. Il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas de grande route. À Ndé, on y va à pied, en charrette ou en moto, mais en voiture rarement. Donc, ce pays qui était bien sûr... pendant quelques années bien visité par les touristes, notamment les touristes français, aujourd'hui est encore plus isolé parce que les touristes, après le coup d'État en 2012, les touristes n'osent plus y aller. Et s'ils ont raison ou tort, je ne sais pas. Moi, j'y suis allé et je me suis senti complètement en sécurité parce que pour moi, le village des ND, c'est la partie sur la planète le plus paisible que je connais. Mais c'est vrai, pour y aller, on passe par les villes, on passe par les endroits où, effectivement, de temps en temps, il y a des attentats et il y a de plus en plus de tensions politiques avec les djihadistes qui viennent du Nord, qui viennent de Libye avec des armes lourdes, qui posent effectivement un problème. Il y a des tensions en ce moment entre le peuple des Peuls et le peuple des Dogons. Et des fois, effectivement, il y a des incidents. Mais je dois dire que quand je suis au village d'Endé, on ne croit pas à tous les dangers qu'il peut y avoir dans le monde, parce qu'il y a un monde là, un petit peu à part. Et donc, je pense que les personnes qui vivent dans des villages comme ça, en Afrique, ce ne sont pas eux qui vont traverser tout le nord de l'Afrique, traverser avec un petit bateau la Méditerranée pour prendre refuge ici, parce qu'ils ne sont pas tellement en danger. Est-ce que la vie est rose, toute rose là-bas? Non, la vie n'est pas toujours facile. Surtout depuis que les touristes ne viennent plus, parce que les touristes apportaient de l'argent. Ils achetaient des tissus bogolans, ils achetaient des statues, ils dormaient dans les campements, ils mangeaient les repas qui étaient préparés pour eux. Et donc, il y avait un apport d'argent assez important. Ils ne viennent plus maintenant. La vie économiquement n'est pas du tout facile dans le pays Dogon. Mais est-ce que les gens sont malheureux? Non. Nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de luxe, nous avons beaucoup d'objets, il y a la sécurité ici, il y a le climat qui est clément, il y a à peu près tout ce qu'on veut, et quand on marche dans la rue et on regarde la tête des gens, ben, on se dit que des fois, ils ne sont pas contents. Alors que, qu'est-ce qui nous manque? Et là-bas, ils ont strictement rien, ils ont vraiment très peu de choses. Les enfants, je les vois jouer toute la journée. Est-ce que je vois un jouet? Non. Ils jouent avec rien. Et les gens sont toute la journée en train d'échanger ensemble, ils vivent ensemble, ils vivent dans la rue, ils se rencontrent, ils ne sont pas tout seuls. Même les personnes qui ici sont cachées dans une maison de retraite, là-bas, ils sont dans la vie. Les autres générations sont avec eux. Quand il y a quelqu'un qui est malade, tout le monde s'en occupe. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'argent pour aller consulter un médecin et il ne l'a pas, ben, il y a toujours de la famille qui lui donne l'argent. Ils ont une solidarité, une façon de vivre ensemble qui est, à mon avis, exemplaire. Qu'on n'a pas ici, moi inclus. Je vois pratiquement pas mes voisins. Et je m'occupe de mon petit business, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait ici pour être ensemble? J'ai trouvé ça vraiment d'une grande, très très grande valeur. Et quand je vois les femmes, comment elles sont colorées, comment elles sont rayonnantes, comment elles sont souriantes, j'ai vraiment eu envie de montrer ça ici. Donc la première fois que j'y suis allé, j'avais que mon téléphone pour prendre quelques photos. Et la deuxième fois, j'ai amené une caméra et j'ai filmé. J'ai pris des photos parce que je me disais, cette façon de vivre, ça vaut le coup de le montrer ici. Et ça vaut le coup de le montrer à vous, ça vaut le coup de le montrer aux enfants. Je suis tout à fait prêt maintenant que le film est fini, tout à fait prêt à montrer dans les écoles, et à montrer à chacun qui veut le voir. Parce que je trouve que leur richesse humaine, leur façon d'aborder la vie, avec le sourire et la bonne humeur, c'est vraiment exemplaire. Quand je vois comment là-bas, les enfants sont joyeux d'être à l'école, ils sont en joie, et quand on leur demande une petite tâche, ils partent en riant et en courant pour accomplir la tâche. Ils sont contents de le faire. Et ici, il va demander à un enfant d'accomplir une petite tâche. Donc, voilà, il y a plein de valeurs que j'ai vues là-bas, que j'ai eu envie de montrer ici. Un autre aspect de cette vie, c'est les traditions artisanales. Là-bas, on voit comment les gens fabriquent les choses, on voit comment les gens vivent, parce que tout se passe dans la rue. Alors que chez nous, tout est caché, on voit rarement un artisan travailler dans la rue. Et là-bas, c'est chose courante, on ne voit que ça. Parce que dans la maison, ils font que dormir, quoi. Ils vivent pas dans la maison. Ils font la cuisine dehors, ils discutent dehors, ils travaillent dehors. Et donc, j'ai pu observer des activités, comme par exemple l'activité du coton. Donc, en 2016, quand j'ai commencé à filmer, j'ai filmé les femmes qui étaient en train de égrener, de carder et de filer le coton. Après, les tisserands tissent. Et après, les tailleurs font des habits et qui sont ensuite teintés avec les couleurs de terre, entre autres, et ça donne le tissu qu'on appelle le bogolan. J'ai un exemple sur la table d'exposition en dehors, et il y a quelques exemples de sacs et de coussins qu'on a fait à partir de ce tissu, qui est non seulement magnifique à voir et à toucher, mais aussi à porter. Quand on a des vêtements avec ce tissu-là, on se sent vraiment bien. Quelque part, on sent dans le tissu que c'est fabriqué à la main d'une façon très naturelle. Et donc, une des choses qu'on est en train de faire, c'est aussi promouvoir l'usage de ces tissus ici, pour pouvoir aider les personnes là-bas qui fabriquent ces tissus. Et c'est un travail phénoménal. Il y a beaucoup d'heures de travail pour rien que filer le coton à la main. Vous allez le voir dans le film. Il y a d'autres artisans qui fabriquent des chaises, il y a le forgeron, il y a les femmes des forgerons qui font la poterie. Pourquoi sont les femmes des forgerons? Parce que les forgerons utilisent le feu. Donc dans cette famille, c'est une petite caste à part, qui habite dans un petit quartier à part aussi. Ils utilisent le feu. Donc il y a plein d'activités qui les font vivre aussi. Et dans d'autres quartiers, ils font des paniers en osier. Il y a un autre quartier où ils font de la teinture indigo. Donc chaque quartier a son métier et c'est presque des castes, des endroits où on fait une activité spécifique. Tout ça, ça peut fonctionner, mais c'est un équilibre très précaire. Et ce que j'ai filmé en 2016, je ne pouvais pas le filmer en 2017. Quand j'y suis retourné en 2017, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne travaillez pas le coton? Où sont les femmes qui filent? Où sont les tisserands qui tissent? Carrément, le métier du tisserand était un peu tombé en ruine. Il disait, on ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coton. Ils ne cultivent pas le coton là-bas, il ne pleut pas assez. Donc il faut acheter le coton. Et pourquoi ils ne pouvaient pas travailler? Ils n'avaient pas l'argent pour acheter du coton. Donc tout de suite, j'ai dit, mais ça c'est la première chose qu'on doit faire et que je peux faire. Je vous donne de quoi acheter. À l'époque, on avait acheté 600 kilos de coton. Et tout de suite, le jour même que le coton est arrivé au village, les femmes sont mises à filer. Donc tout de suite, ça a relancé la dynamique. Et dans d'autres quartiers, il y a des groupes de femmes qui sont venues demander de l'aide aussi pour acheter du coton. Et dans le village à côté, à Bagorou, il y a des femmes qui sont venues aussi. Et à Yabatelou, un village plus loin encore aussi. Donc il y a plein de groupes de femmes qui se sont mis maintenant à retravailler avec le coton. Et tout ce qu'on a pu faire et dû faire, je crois, c'était investir dans l'achat du coton, et la machine marche à nouveau. Et donc, aujourd'hui, cette machine se renouvelle. Et il y a quelques jours, j'avais Amadou, qui est notre personne de contact au village, au téléphone, et il m'a dit, on a expédié deux rouleaux de bandes blanches à Bamako pour être envoyé en France, parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer en France qui pourra l'amener dans sa valise. Donc, on se débrouille comme ça pour faire venir le tissu ici, et on se débrouille pour que l'activité continue là-bas. Et ça, c'est le but de l'association Manikanu de stimuler les projets là-bas pour qu'ils puissent fonctionner en autonomie. Donc il y a plusieurs projets qui fonctionnent comme ça. On lance et quelque chose se passe qui fait que là-bas, ils peuvent générer de l'argent pour eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent vendre le tissu là-bas, sur le marché. Ils peuvent le vendre à Bamako, à un meilleur prix. Et ils peuvent le vendre ici, s'il y a des personnes qui peuvent l'amener ici, à encore meilleur prix. Donc voilà, il y a ce travail en collaboration que nous avons avec les Dogons, qui est pour moi un contact presque journalier. Amadou m'envoie des photos, il m'envoie des petites vidéos. Nous, on envoie de l'argent. Il y a tout le temps un échange et une dynamique qui fait que là-bas, ça fonctionne. Et qui fait aussi que là-bas, le peuple Dogon ne se sent pas oublié. Parce que qu'est-ce qui se passe au Mali ? Le gouvernement malien s'occupe de Bamako, s'occupe des endroits où il y a vraiment de gros problèmes, comme à Timbuktu, et oublie le peuple Dogon. Et ça a toujours été comme ça. Les Dogons ont toujours été oubliés. Et donc, le contact que nous avons et le soutien que nous faisons n'est pas uniquement financier, matériel, etc., mais aussi moral pour eux. Pour eux, ils ont cet échange avec des gens ici qui sont avec eux et qui disent « on est là ». Et dans les moments difficiles comme aujourd'hui, par exemple, parce qu'il manque de la nourriture, on a fait un crowdfunding, il y a eu 5 000 euros qui ont été donnés. Beaucoup de gens ont été contents de donner. On peut acheter des tonnes de riz là-bas. Donc, il y a cet échange qui se fait. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, eux, c'est ce que vous allez voir dans le film. Et donc, je demande à Michel de lancer le film d'éteindre les lumières. Et je vous souhaite une bonne demi-heure. C'est encore mieux.
Il n'y a pas de son.
Michel, le son.
Le son.
Oui.
La vie quotidienne du village et les villageois qui sont devenus mes amis. À Ndé, il n'y a ni route, ni électricité, ni eau courante. Mais les Dogons ont une joie de vivre et une richesse humaine extraordinaire. Les femmes sont remarquables. Elles travaillent énormément et elles s'entendent très bien entre elles. Elles cherchent l'eau au puits,
Elle s'occupe du ménage, pile de mille, vont chercher du bois et elle prépare bientôt le repas traditionnel. Elles ont aussi des activités rémunératrices. Elles vendent des beignets et des arachides, cultivent des légumes au jardin, font de l'élevage de moutons et de poules, et elles profitent de chaque moment tranquille pour filer le coton. Dans le quartier de Néo, plusieurs hommes fabriquent des chaises. Le travail se transmet de père en fils. Domo est un maître dans la matière. Depuis quelques années, se développe une nouvelle activité, le maraîchage. Avec le soutien financier, des jardins ont été créés à l'extérieur du village. Pour chaque jardin, il faut creuser un puits pour pouvoir arroser les plantes et faire une clôture autour de la parcelle pour que les animaux ne les mangent pas. Les villageois cultivent des légumes pour leur propre consommation et aussi pour en vendre au marché. Les enfants participent joyeusement à la vente de beignets, de fruits et d'oignons séchés. Ils participent naturellement dans beaucoup d'activités des adultes, mais ça ne les empêche pas d'aller à l'école. Avec l'aide des ONG, deux écoles ont été construites. Une école laïque, que vous voyez ici, et une école coranique. L'association Malkanou donne chaque année des fournitures scolaires pour permettre aux enfants de faire rentrer les classes. Depuis peu, le centre de petite enfance accueille les enfants de 3 à 6 ans. Amadou est mon guide et ami. C'est lui qui tient le campement où je réside et c'est lui qui traduit en cas de besoin.
Le merci l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés et qui nous ont soutenus.
Je vous propose d'aller voir de plus près les activités des habitants de Ndé. Une activité importante à Ndé est la fabrication du tissu traditionnel appelé le bogolan. Le mot bogolan signifie coloré avec la terre. Les femmes achètent le coton au marché de Bankas. Ils viennent de la région de Sikasso. Il ne pleut pas assez au pli de bon pour le faire pousser sur place. Les femmes commencent à égrener le coton. Ensuite, elles le gardent et puis elles le filent. Les femmes donnent les fils aux tisserands, qui va tisser de longues bandes de 15 cm de large. Le tisserand à Makéné commence à avoir de la bouteille et les jeunes cherchent du travail mieux payé. Avec le projet Bourgoulan, j'aimerais faire en sorte que ce travail soit payé de façon plus intéressante pour que le savoir-faire ne se perde pas.
Après avoir fait des mesures, on va donner aux gens qui vont coudre avec la main.
Le métier du caribou est de relier les bandes avec le même fil solide, et il fait ça avec beaucoup de conviction. Les tailleurs font des chemises, de grands boubous, des bonnets et des chapeaux. Ici, Eneva fait un bonnet d'Ogon. C'est avec l'argile qu'on fait la couleur noire sur nos tissus jaunes. Sagou dit à son fils comment faire, mais je crois que ce dernier a sa propre idée. Pour faire la couleur rouge, Amadjouko utilise l'écorce du résigné, qu'il fait cuire dans la marmite.
Thank you.
Domo fabrique des chaises, des bancs et des lits. Ici, il fait des lits avec des tiges de feuilles de palmier. Comme tous les artisans, il travaille dehors. Dans la maison, guère plus qu'une pièce, on ne fait que dormir. Il y a souvent des enfants qui regardent, ou des adultes qui viennent causer ou boire le thé. Souvent, le soir, Domo vient jouer de la guitare de Wong au campement. C'est une guitare à deux cordes, jouée avec deux doigts. Autrefois, il jouait le soir pour apprendre les danses traditionnelles aux jeunes. Pour fixer les lattes ensemble, les menuisiers utilisent des lanières en peau de vache. Ils trempent les morceaux et découpent de fines bandes. Domo se marie tard. Quand on se moque de lui en disant que sa femme est si jeune, il répond qu'il a juste pris le temps de bien choisir. Derrière les arbres à droite, il y a un sentier qui mène en haut. Allons-y faire un tour. On passe entre les rochers pour monter. Ce rocher marquant s'appelle le Bodende. Depuis le plateau, on voit bien la plaine avec les dunes sablonneuses. On voit les chemins et le lit de la rivière, qui est sèche en ce moment, mais un vrai torrent pendant la saison des pluies. Pendant notre balade sur le plateau, nous avons rencontré trois garçons qui ont ramassé du foin. On les suit pour voir comment ils descendent les bols de la falaise. D'autres reviennent avec les balles de foin sur la tête. Ici, ils arrivent au quartier des forgerons. Je vous présente Anselman, maître forgeron et sculpteur. Anselman fait des cuillères et fourchettes en bois et Foussini prépare le thé. Maïmouna a 14 ans. Elle fait de la poterie et elle vit avec sa sœur Kouma. Sa grand-mère lui apprend à travailler l'argile. L'argile vient d'endroits différents en fonction de l'objet à fabriquer. Inaminta est la meilleure du quartier pour faire les grandes jarres. Maïmouna ne va plus à l'école. Elle avait des crises d'épilepsie et elle s'est blessée la hanche en tombant d'un arbre. Dimanche. Petit à petit, elle va apprendre à faire des pots, des bols et des assiettes. Mes filles connaissent toutes les chansons traditionnelles. À gauche de Maïmouna, vous voyez Haba. Elle a 24 ans et elle a son bébé sur le dos. Nous allons rendre visite à ses parents pour mieux voir la cuisson de la poterie et pour découvrir le travail des forgerons. Nous sommes ici chez la famille Senga. Boukari fabrique des fusils traditionnels. Toutes les pièces sont façonnées à la main. Sa femme Ramata fait de la poterie. Comment la poterie est cuite à l'extérieur, pas dans un four comme chez nous. Allez, Bougrahi perce le trou dans la crosse du fusil en brûlant le bois. Fousséni, qui faisait l'été, sculpte aussi. Ici, il fait un couple homme-femme. Avec des outils traditionnels, les dogons sont si habiles. Cela fait des statues de l'ombre, l'esprit de l'eau. Hansema a appris avec son père Arfa, ici dans la vieille forge. J'adore comment on peut voir les vieux métiers encore vivants et tout près des gens, là où chez nous ça se passe caché dans les usines, loin de la vie quotidienne. Thank you. qui vous êtes, chers habitants du pays de Beaune, et vous aussi, chers spectateurs. Objets qui ont été fabriqués dans le film que j'ai de l'autre côté sur la table. C'est une petite tirelire que Maïmouna a fabriquée. La hache que vous avez vue que Hansema a forgée à la fin. Et une statue de Nomo qu'il était en train de faire aussi. Donc là, vous pouvez voir les objets qui sont dans le film. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous
venez de voir ? Est-ce qu'on voit les objets qui sont à vendre ou est-ce qu'on peut les acheter ?
Alors, il y a une très bonne question. Il y a un site qui s'appelle laviand.com et sur le site, il y a une page boutique où vous pouvez trouver les tissus, il y a une page sculpture, il y a plein de choses. Et vous voyez les projets aussi. Vous voyez aussi comment vous pouvez participer au projet et vous pouvez aussi revoir le film, même le voir en anglais, en néerlandais ou en espagnol.
Comment ça se passe au niveau on les voit utiliser du bois pour combustible, on a un petit peu l'impression que la zone est un petit peu désertique, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais bon, c'est pas si florissant que ça. Ils arrivent à avoir la réserve de bois suffisante pour ça ?
Alors, ils arrivent, mais c'est tout juste. Donc, c'est une zone qui est c'est la partie Sahel, donc c'est pas le désert, mais c'est pas loin. Et le désert gagne du terrain chaque année. Le sable vient de plus en plus près chaque année. D'où notre projet de plantation d'arbres, parce qu'il faut vraiment planter et planter en grand nombre pour stopper le sable, l'arrivée du désert, pour donner plus de bois pour faire la cuisine, pour chauffer. Il y a aussi, on peut développer d'autres façons de faire la cuisine qui utilisent moins de bois. Et donc, le bois, les arbres là-bas sont utilisés pour tout. Il y a l'écorce qui est utilisée pour la médecine, ou il y a des feuilles qui sont données à manger aux animaux, ou les humains mangent les fruits. Il y a plein de façons. Il y a des très beaux arbres là-bas. Il y a des arbres qui sont grands et qui sont vieux. Et la population sait exactement quel arbre est utilisé pourquoi. Mais on peut en planter d'autres. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours et qui est très, très utile pour tout le monde. Et très nécessaire.
Il faudra qu'il s'adresse aux Chinois.
Pardon ?
Il faudra s'adresser aux Chinois.
Pour planter les arbres ?
Pour planter les arbres.
D'accord. Vous m'en direz plus tout à l'heure.
Combien sont-ils à vivre dans le village ?
Alors, le village souvent les villages là-bas, au pays d'Ogon, sont constitués de plusieurs quartiers. Donc le village de Ndé, en fait, c'est assez grand parce qu'il y a quatre quartiers. C'est presque comme quatre villages, sont vraiment c'est un regroupement, en fait, de quatre villages. Et quatre quartiers d'Ndé comptent à peu près 800 habitants. Donc, moi, je vais dans le village de Ndewo, et dans Ndewo, donc, il y a à peu près 800 personnes, et c'est
c'est encore divisé en sous-quartiers. Et les sous-quartiers, on le voit quand on voit le village du haut de la falaise, on voit les rues principales qui divisent le quartier en sous-quartiers, et les sous-quartiers, c'est vraiment par famille. D'ailleurs, il y a beaucoup, c'est une grande famille là-bas, tout le monde s'appelle Guindo, et donc il y a des familles qui habitent dans chaque sous-village, et après dans les mariages, c'est la femme qui déménage de son village à elle, dans le village de l'homme. L'homme reste dans la famille.
Où vont-ils chercher l'eau ?
Et l'eau, ils vont chercher l'eau au puits. Donc, pendant la saison de pluie, actuellement, c'est la saison de pluie, il y a aussi de l'eau qui arrive de là-haut, et il y a une rivière, mais dans la saison sèche, donc là où j'ai filmé, c'était quand c'était l'hiver ici, ils cherchent l'eau au puits. Et il y a des puits qui sont où l'eau est à 9 mètres. On a fait un puits l'an dernier au village voisin, à Bagorou. Et on a trouvé l'eau à 18 mètres. Et cette année, on a fait encore un village plus loin, à Yabatalou, où l'eau était à 22 mètres. Et tout ça, il faut le monter à la main. Mais il y a aussi quelques jardins qui ont un puits, un forage, et donc il va à 80 mètres avec des panneaux solaires et une pompe, mais c'est pas forcément ce que la population préfère, parce que quand la pompe tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Alors que le saut avec la corde, ben, tout le monde sait le faire.
Comment ça se passe pour l'école? Qui est-ce qui fait l'école? Jusqu'à quel âge? Est-ce que les adolescents partent plus loin au lycée?
Alors à Ndewo, il y a une école primaire. Donc, il y a un jardin d'enfants depuis quelques années, une école primaire depuis plus de temps déjà. Il y a une école primaire publique, et il y a une école primaire coranique. Il y a les deux. Il y a une mosquée aussi. Les gens sont moyennement ou modérément musulmans. Et donc les enfants vont à l'école, et l'après-midi, ils sortent assez tôt de l'école, et l'association Malikanou donne les fournitures scolaires aux enfants qui leur permettent d'aller à l'école, parce que c'est pour les familles, c'est une période très difficile en ce moment, parce que ça s'appelle la période soudure. Donc la récolte de l'an dernier est finie, le mil, ils cultivent le mil, et la nouvelle récolte se fera en novembre. Donc voilà, cette période est difficile, il faut acheter à manger. Et quand il faut acheter à manger, ben, on ne va pas acheter les crayons et les cahiers. C'est hors de question, ils n'ont pas l'argent pour. Donc nous, on fournit ça et les enfants vont à l'école.
Et après,
il y a, voilà, dans le quartier de Ndetoro, il y a un collège. Et pour les enfants qui apprennent bien, il y a à Banka, c'est à 12 km, c'est la ville. Il y a un lycée. Après, s'ils veulent faire des études, c'est à Bamako, à 700 km. Oui.
Ils ont été occupés par les djihadistes.
Je vous réponds tout de suite. Ils vont entre les villages, par exemple de Bagourou jusqu'à Ndé, c'est une demi-heure de marche. Les enfants viennent, les collégiens viennent à Ndé pour aller au collège. Mais à Bagourou, il y a une primaire aussi. Donc tout se fait à pied. Même il y a des enfants qui vont 12 km à Bankas, et bon, des fois ils restent là-bas, mais des fois aussi ils font aller-retour dans la journée à pied. Alors, les djihadistes. Oui, il y a des djihadistes, il y a des attaques terroristes à Mopti, à Sévaré, à Bankas, c'est pas complètement sûr, parce que à Bankas passe la grande route. Donc là, il y a les camions, il y a les bus, il y a tout le monde qui passe. Et c'est la route qui va à Burkina Faso. Donc il y a beaucoup de circulation. Donc par exemple, quand je suis au village d'Ndé, je ne vais pas à Bankas. Il y a un grand marché tous les mardis à Bankas, j'y vais pas. Je ne montre pas mon nez dans la ville, là où je peux être repéré et il y a des... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je reste dans le village, à Ndé, Là, tout le monde se connaît et ça va.
Et mais dans les villages, ils n'auront pas imposé la charia, là-bas.
Alors, pas encore. Ouais, j'espère qu'ils le feront jamais. Dans des villages près de Sévarais, là où ils sont bien présents, ils le font. Donc ils arrivent avec les Kalachnikovs et ils imposent leurs règles de vie. Et ça, c'est vraiment, ça c'est terrible. Parce que vous voyez comment les gens vivent en liberté, en bonté. Et
grâce à la solidarité.
Grâce à la solidarité, qu'est-ce qu'on veut changer là-bas? Je veux dire, moi je souhaite le progrès pour tout le monde, mais quel est le progrès pour eux? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut leur imposer qu'est-ce qui est imposé dans d'autres villages? J'ai entendu des histoires que je préfère pas raconter ici. Donc oui, le danger là.
Il y a l'armée française là-bas, non?
Oui. Oui.
Il y a de l'uranium qui est pas loin.
Exactement.
Ils ont eu la chance de ne pas l'avoir sur place. Ou le pétrole, par exemple.
Heureusement, au pays d'Ogon, ils sont tranquilles.
Oui, justement, je voulais demander, dans le film, on voit des fois, le forgeron, il montre comme moi, au bras, et un sculpteur qui a des tennis aux pieds. Donc, ils ont pas enfermé quelque part, ils n'ont pas coupé du monde. Donc, mais il y a quelques vêtements aussi que j'ai vu, mais en gros, il y a une absence de tous les objets qui font chez nous, qui font le confort de chez nous. Mais comment il ressent cette absence des objets?
Alors, ils ont des portables. Oui. Ils ont des portables. Mais ils préfèrent les petits vieux Nokia parce qu'ils fonctionnent bien là-bas. Ils n'aiment pas tellement les smartphones. Donc, ils ont des portables, ils écoutent de la musique sur les portables, ils téléchargent de la musique sur leur carte mémoire, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent de la musique d'Ogon. Ça, c'est super. Mais il y a des panneaux solaires, et il suffit d'un panneau solaire comme ça pour charger les téléphones. Ça, c'est pas un problème. Après, d'autres trucs, il n'y a pas. Je veux dire, il y a peut-être une radio. Il y a une radio. Mais ça, il y a une petite ampoule, des fois. Mais il n'y a pas grand-chose, heureusement. Donc, ils entendent les informations. Ils sont très branchés sur... Ou certains, ceux qui parlent français, comme Amadou, ils sont assez branchés sur les informations françaises. Ils savent très bien ce qui se passe ici. Mais ils n'ont pas la télé, donc ils ne voient pas les images. Ils ne voient pas comment on vit ici. Et heureusement... Parce que ce que j'adore faire ici, c'est montrer comment ils vivent là-bas et comment ils sont bien. Je ne veux pas le faire dans l'autre sens. Parce que qu'est-ce que je vais leur montrer d'ici? Ça n'a pas beaucoup de sens.
Ça les perturbera.
Par contre, les jeunes, quand ils vont à la ville, au lycée, etc., ils rapportent aussi cette...
Mais à Bankas, il n'y a pas l'électricité non plus.
D'accord.
Donc, il y a de quoi pour faire fonctionner une petite ordinateur avec Internet, peut-être, mais il n'y a pas grand-chose. Et oui, bien sûr, petit à petit, ils trouvent des choses. Il y a des choses qui peuvent acheter. Vous voyez qu'ils utilisent des seaux en plastique et plus les calebasses, malheureusement. Ils construisent les brouettes. Vous avez vu comment elles sont neuves? Elles ne sont pas utilisées. Ils prennent la charrette avec l'âne. Mais, donc, il y a des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive, par exemple? C'est les grandes balles avec des vêtements. Des vêtements qu'ici, on ne porte plus. On les envoie là-bas parce qu'on croit les aider. Mais est-ce qu'on les aide vraiment? Parce que du coup, ils peuvent acheter un pantalon à rien du tout. À 1 euro, ils achètent un pantalon. Alors que le pantalon en tissu d'Ogon, ce qu'ils adorent là-bas, ce qu'ils fabriquent sur place, ils ne peuvent pas se le payer parce que c'est trop cher. C'est trop cher parce qu'ils n'en fabriquent pas assez, ils ne gagnent pas assez avec cette façon de faire les habits, et les autres sont trop peu chers, quoi.
Alors, les tissus des femmes qu'on a vu, ça vient de...
J'ai honte de le dire. Du moins, je suis hollandais, elles viennent des Pays-Bas.
Parce qu'ils sont trop jolis.
Bon, c'est, heureusement que c'est joli. Heureusement qu'elles sont, elles sont magnifiques. Et elles se font les vêtements une fois pour longtemps. Il y a des femmes que je vois depuis 3 ans dans la même robe, quoi. Mais c'est joli, mais il y a aussi le tissu là-bas, le tissu traditionnel indigo qui est très beau.
On a vu une grande toile rectangulaire avec des dessins. Est-ce que ces dessins-là ont un sens précis pour eux?
Tout, il y a une symbolique là-dedans, dans les dessins, tout a un sens. Et j'aimerais vraiment pouvoir stimuler cette fabrication artisanale traditionnelle de là-bas. Si dans quelques années, on voit plus de gens porter un pantalon en tissu d'ogon, je nous félicite.
Grâce peut-être au site.
Et c'est possible. C'est tout à fait possible.
Au niveau j'ai vu les machines à coudre.
Il faut en parler à Bordeaux.
Est-ce qu'ils ont des besoins de ce site? Les machines à coudre.
Les machines à coudre.
Est-ce qu'ils ont besoin de machines à coudre? Oui, ils ont besoin de machines à coudre, mais pas électriques. Vous avez vu, avec le pied, ça marche très bien. Oui, oui, oui. Ce chapeau que vous voyez là, je ne sais pas si c'est pour une fête ou le bonnet, pour une fête ou autre, mais ils ont des fêtes et ils ont les fameuses fêtes avec les masques. Ils ont des danses de masques magnifiques que j'ai jamais vues. Ils ont toute une culture, les Dogons ont une culture incroyablement riche. Ils ont toute leur histoire de la genèse selon leur cosmogonie. Et génial, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer, d'une part parce que je le vois pas. Quand on vit là-bas, c'est pas ce qu'on voit au premier abord. Je cherche pas à voir les danses des masques, les choses folkloriques, parce que ce que je veux voir, c'est la vraie vie. Ce que j'ai montré là, c'est la vraie vie. Et c'est vrai que cette culture est riche, mais autant au tout début, ils ouvrent les bras grands ouverts, on fait tout de suite partie de la famille, ils sont très accueillants, vraiment extrêmement, autant après ça, il y a une certaine réserve. Donc, bien sûr, je savais qu'ils ont une relation avec l'étoile Sirius et tout ça. Et j'ai posé des questions. Non. Pas de réponse. Ils changent de sujet. Donc, il y a des choses qu'ils gardent pour eux aussi.
Et le chant des femmes, on a entendu des femmes chanter.
Oui.
Elles chantent pour invoquer, on ne sait pas.
Ah, complètement. Et Domo, qui fabrique les lits et qui joue la guitare d'Ogon, quand j'y suis, il vient chaque soir chanter, mais il ne parle pas français, donc il chante en d'Ogon. Et quand je demande à Amadou qu'est-ce qu'il raconte, il dit, ben, il invoque les esprits. D'abord, il demande les esprits une bonne soirée, il demande la santé pour tout le monde. Là, avec chaque salutation, on demande la santé et pour tout le monde et la famille, et merci pour hier, et c'est infini. Et donc, ils sont très reliés, malgré l'islam, ils sont très reliés à leur côté animiste encore, et les esprits. Et sur le site, je pense qu'il y a le lien, en tout cas sur ma chaîne SoundCloud, j'ai une interview avec Domo, donc qui est traduit, où je pose des questions au niveau des esprits et tout ça, et il en parle un petit peu, et il y a un moment, c'est très intéressant, il répond, je peux en dire un petit peu, mais je ne peux pas dire plus. Mais ils ont quand même raconté des choses par rapport au village, comment ils ont trouvé cet endroit et que l'esprit maintenant il est sous la terre, mais il est toujours là. Et il y a des petites informations petit à petit que je reçois.
Et il y a des
criots. Il y a plusieurs.
Oui.
Au niveau
niveau santé, ça se passe comment? Disons, il y a des centres pour un centre médical.
La santé. Oui.
La santé.
Bonne question. Alors, il y a un dispensaire dans Ndeguinikanda, donc c'est le quartier qui est le plus loin, c'est à une petite trois quarts d'heure de marche, quand même, quand on est malade, bon, ou sur la charrette, ou souvent ils prennent la moto pour des cas comme ça. Moto, c'est tout ce qui s'appelle deux roues motorisées là-bas. Donc, les femmes accouchent souvent dans le dispensaire, c'est vrai, avec une sage-femme, mais je crois aussi dans le quartier, même à la maison avec une sage-femme. Je commence à demander un peu des choses comme ça, qui sont presque un peu intimes pour eux. Mais donc, ce dispensaire, on a eu une chance inouïe, a été rénové il y a 2 ans par une grosse ONG américaine, et je crois que c'était juste avant que Trump monte sur le... et ils ont promis tous les soins gratuits pour 5 ans. Donc c'est une chance incroyable.
Il y avait encore une oui. question tout au fond. C'est encore actuel? Oui.
Mais j'étais il y a une dizaine d'années et je croyais qu'on pouvait marcher seul en pays d'Ogon. Et j'avais rien préparé, mais j'avais fermement l'intention de marcher pendant une semaine seul. C'est absolument impossible à cause de tous les lieux sacrés. Et au départ, quand ils m'ont dit ça, j'ai pensé que la vérité, c'est que c'était une histoire d'argent, il fallait que je paye un guide. Et puis que, en étant têtue, j'y arriverai. Et j'y suis absolument pas arrivée. Et les gens partaient avec moi. J'allais dormir dans un village. Quelqu'un m'accompagnait, quelqu'un me suivait, parce qu'on risque de tomber sur des lieux sacrés, sur des ermites qui sont dans des gros, enfin sur plein de trucs. Et ils n'en parlent pas, ils n'expliquent pas, mais ils surveillent tous les gens qui sont là. Et on ne peut pas marcher tout seul, c'est impossible.
Oui, moi dans des situations normales, je suis le dernier à prendre un guide. Et là-bas, il y avait Amadou qui était mon guide. Bon, d'abord, il est super sympa. Et j'ai très vite compris que le guide était absolument nécessaire. D'abord, en plus, une bonne compagnie. Mais exactement ce que tu racontes, il y a tellement de lieux sacrés où il ne faut pas pénétrer, où il ne faut pas aller. Et d'ailleurs, on peut se perdre facilement aussi, parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais je fais des petites escapades tout seul, mais genre une demi-heure dans la direction où je sais qu'il n'y a pas de lieu sacré. Mais tout ce qui est en direction de la falaise et sur le plateau, on y va avec un guide. Oui. Et pour aller à d'autres villages, on y va ensemble.
Ah, pardon.
Oui. Oui. Je voulais poser comment le fonctionnement politique du village. Il y a un conseil constitutionnel.
Alors, la situation politique dans le village. Dans le village, il y a les aînés qui sont importants. Il y a le doyen du village qui est important. Donc, quand j'arrive au village avec Amadou, la première chose qu'on veut faire, c'est saluer les vieux. Et le doyen, ça c'est la première chose à faire. Après, il y a un chef de village, mais il y a un nouveau chef de village depuis 2 ans, et en fait c'est un jeune. C'est un infirmier qui a dans les 30 ans, donc c'est pas du tout un des vieux. C'est un jeune qui est dynamique et qui est chef de village, qui a une responsabilité, par exemple, quand. Avec l'action pour acheter du riz. Quand on arrive avec une tonne de riz dans le village, c'est 20 sacs de 50 kilos, c'est le chef du village qui vient pour organiser le partage du riz. Et quand il y a des questions, par exemple, quand ils veulent faire une fête, spontané pour faire la fête, ben, il demande au chef du village s'ils peuvent faire la fête. Et eux, lui, il va voir ses conseillers, et suivant la gravité de la question, il consulte. Et pour des petites choses, il dit oui ou non. Donc il y a un chef du village. Après, il y a un maire du village, mais ce n'est pas du village d'Indé, il y a un maire qui est maire sur 17 communes. Donc c'est commune, communauté de communes. Et lui, c'est quelqu'un qui était aussi guide avant, donc qui parle bien français, qui a étudié, qui a une voiture, qui peut aller en ville, qui peut rencontrer d'autres maires, d'autres cantons, je dirais. Donc les questions politiques sont organisées comme ça. C'est un petit peu sur plusieurs niveaux.
Et là, il est payé par l'État.
Le maire, je suppose que oui. Mais, par exemple, il n'y a pas beaucoup qui est payé par l'État. Il y a quelques enseignants qui ont une subvention de l'État à hauteur de 37 euros par mois. Et il y en a quelques-uns qui n'en ont même pas. Donc, l'État ne donne pas beaucoup d'argent.
Vous avez parlé un petit peu de festivités. Est-ce que les festivités sont fréquentes ou est-ce que ça suit le rythme des saisons? Comment ça s'organise?
Il y a des festivités qui sont liées à la saison, effectivement. Par exemple, au printemps, il y a des fêtes pour les personnes qui sont décédées, des célébrations. Les fêtes des masques, j'ai aucune idée quand ça a lieu. En tout cas, je n'ai jamais vu. Et quand moi j'y étais, il y avait une fête, par exemple, le dernier jour que j'étais, parce que je faisais la fête pour fêter notre collaboration. Et une fête comme ça, c'est une fête spontanée. Donc il y a quelques percussionnistes qui viennent avec leurs percussions. Et il y a tout le monde qui chante, tout le monde qui danse, les femmes chantent. Et on fait la fête jusque tard dans la nuit, comme ça.
Donc c'est chant et danse.
C'est chant et danse, c'est très spontané. Quoi. Okay. Oui.
À un moment, dans le film, on voit le ferronnier et en face, il y a un monsieur qui fait un geste très très rapide. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas bien vu ce que c'était.
Oui, ça c'est la soufflerie. Donc c'est des peaux de bête.
En face de lui.
Oui, c'est des peaux de bête et ça fait la soufflerie pour comme dans l'autre forgeron qui fait un fusil, il y a son fils qui tourne et qui a une soufflerie comme ça. Oui, oui.
Pour activer le feu.
Oui.
Bon, je sais, les quarts d'heure d'échange, questions-réponses, c'est jamais assez suffisant. Oui. Mais on a encore la possibilité de s'échanger un peu quand on passe à table tout à l'heure. Mais avant, je passe encore la parole à Catherine qui a quelque chose à annoncer encore. Mais tout d'abord, encore un grand merci à Kuhn pour.
Quelques petites annonces. Déjà une, parce que sinon je vais l'oublier. S'il y en a qui sont intéressés par un opéra, donc dimanche, hein, si j'ai bien compris, Émile, c'est ça? Tu as trois places.
Hein? Il y a des gens qui sont abonnés et qui ont oublié que c'était dimanche.
Voilà, donc il y a trois places disponibles pour un opéra qui est lequel?
C'est la Traviata.
La Traviata. Voilà, donc si des gens sont intéressés, ils vont voir Émile. Pour récupérer les places.
Voilà.
Je voulais juste vous donner quelques informations. Alors, la première, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Carlabaille, qui fête ses 20 ans cette année. Et il se trouve qu'actuellement, c'est justement leur fête. Or, dans le cadre de cette fête, demain, il y a des tables rondes qui sont prévues. Une première à 9h30 qui va porter sur qui sont les exilés qui frappent à nos portes. Cette première table ronde sera animée par William Bertomière et Sarah Oula. Mon Dieu, P-R-Z-Y. Ouh, dur. Bill, bon, bref. Hein, géographe, qui parleront surtout, qui traiteront surtout de la démographie et géopolitique des migrations, démographie et géopolitique de l'exil. Avec également un géographe qui travaille dans l'université de Toulouse, qui s'appelle David Lagarde. Ça, c'est le matin. L'après-midi, il y a une seconde table ronde qui traitera de arriver en France, être exilé dans le système français. Donc il y aura Estelle Dalvin, qui est sociologue, Julien Brel, qui est avocat au barreau de Toulouse, et Nicolas Vellu, qui est médecin psychiatre. Donc entre les deux tables rondes, entre 12h15 et 13h45, sera proposé un repas par croque en bouche pour 12 euros. Pour ce repas, il faut s'inscrire. Voilà, donc je vous signale ça parce que je pense que c'est important de les soutenir au niveau du CADA. Donc s'il y en a qui sont disponibles demain et qui veulent aller les voir, ça peut être bien pour eux.
A priori, les repas sont complets. Ah. Et on peut venir avec les pique-niques. Quoi,
bon, alors le repas est complet, donc apportez votre pique-nique.
Ça se passe où ?
Comment ?
Ça se passe où ?
Alors ça se passe au CADA, donc au lieu dit Le Péra, Carlabaille.
C'est
fléché pour la fête. Alors après, je voulais vous annoncer quelques informations pour la saison à venir, enfin qui va continuer hein, plutôt. Alors la prochaine conférence aura lieu le 24 octobre 2018 à Carbonne. Georges Labouisse viendra traiter des conséquences de la guerre de 14-18 et du traité de Versailles. Voilà. Ça c'est le 24 octobre. Et avant, nous avons donc une fête, puisque nous fêtons les 5 ans de la pupe en vol, samedi 13 octobre. Donc samedi 13 octobre, à partir de 17h-17h30, jusqu'à tard dans la nuit, nous vous proposerons d'abord à 17h30 un spectacle par un mimagineur qui s'appelle Kaki, enfin son nom de scène c'est Kaki. Nous aurons ensuite à 19h le repas partagé et puis à 21h les diatoniques, hein, donc qui est un groupe d'ici, qui viendra donc jouer de la musique et éventuellement donner la possibilité de danser un peu, peut-être. Je voulais vous parler un petit peu plus de Kaki. Kaki, c'est vraiment un personnage assez extraordinaire. C'est un personnage qui mime, qui fait du mime, qui est magicien, qui est artisan du geste, qui est clown, qui est danseur, qui est percussionniste de la tête aux pieds en passant par les mains. Enfin, c'est quelqu'un d'assez fabuleux, qui est un enfant de la rue, vraiment. C'est un artiste de la rue. La façon, je discutais encore ce matin avec lui au téléphone, il me disait, moi, ma vie, c'est me mettre n'importe où dans la rue et puis mettre mon chapeau devant et commencer mon spectacle. Et pour lui, c'est ça. Alors, malheureusement, pour lui, il habite à Lourdes et j'ai découvert qu'à Lourdes, eh ben, aucun spectacle n'est autorisé. Il m'a dit ça ce matin, ça m'a un peu espanté, mais c'est comme ça. Allez savoir. C'est quelqu'un donc. Ce spectacle a lieu, alors tout l'ensemble des spectacles, c'est bien de le demander parce que j'allais oublier de le dire, c'est à la salle des fêtes de Montesquieu.
Et voilà. C'est entièrement gratuit.
Oui, et entièrement gratuit. Et entièrement gratuit. Voilà, donc si vous êtes dispo, si vous êtes libre, si vous n'étiez pas, si vous étiez libre jusqu'à présent, bloquez ce créneau sur vos agendas. Donc samedi 13 octobre à partir de 17h, le spectacle commence à 17h30, mais si vous arrivez à 17h, c'est bien. Voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée. avec le repas partagé, donc maintenant, et la possibilité de continuer à discuter avec vous, avec nous. Thank you.